Alors nous sommes inondés de grâce, puisque donc déjà, comme je le disais hier, nous sommes dans la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. C'est le centenaire de la fondation du pèlerinage de Notre-Dame des Bois. Et en plus, aujourd'hui, nous fêtons donc la visitation de Notre-Dame. Donc c'est vraiment l'occasion de vous parler donc de Marie, modèle de la charité, puisque c'est justement aussi ce fruit spirituel que nous demandons lorsque nous méditons le deuxième mystère joyeux, donc le mystère de la charité fraternelle. Alors en fait, je pourrais me taire tout de suite, parce qu'après ce qu'ont dit et Père Hubert Marie et Père Stéphane, eh bien je dirais que la charité n'est que la conséquence de tout ce qui vous a été dit hier. Voilà, au revoir et merci. Comme il nous a été rappelé aussi, c'est justement sur la charité qu'a porté la première encyclique du pape Benoît XVI, hein, Dieu est charité, hein, Deus est caritas, comme pour bien donner toute la signification de son ministère, hein, qui a été justement, par son enseignement, par son exemple, de nous éclairer, de nous faire toujours plus entrer dans le mystère de l'amour de Dieu pour nous, parce qu'en fait c'est ça le grand mystère de notre vie, le grand mystère qui nous constitue. Alors c'est vrai que parler de charité n'est peut-être plus évident aujourd'hui, en tout cas dans le langage courant. On préférera parler de d'amour, de fraternité, de solidarité, voire, bon, dans la perspective chrétienne, on aimera parler du don de soi, de la générosité. Mais aimer et aimer de charité, eh bien, c'est une réalité à laquelle nous ne sommes peut-être plus habitués, en tout cas, certainement pas la réalité, mais le mot. Voilà, j'ai dit qu'elle avait été le premier enseignement du pape Benoît XVI. On pourrait aussi ajouter le premier enseignement du pape François à travers son exhortation apostolique sur la nouvelle évangélisation, l'évangile de la joie, qui, comme il le dit d'ailleurs lui-même au début, a valeur de programme pour tout son pontificat. Eh bien, qu'est-ce que la joie de l'évangile, sinon la découverte de l'amour que Dieu nous porte et que cet amour est appelé à se diffuser, à se communiquer. Et je dirais que l'exemple de tout cela, c'est évidemment la Vierge Marie, puisque la Vierge Marie, c'est l'évangile reçu et communiqué. Elle reçoit la bonne nouvelle et elle nous la communique. Elle reçoit en son sein la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, au matin de l'Annonciation, et immédiatement, elle va se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Elle lui apporte, elle lui communique cette bonne nouvelle du salut. Et vous savez combien ces deux scènes, tant de l'Annonciation que de la Visitation, sont justement baignées par la joie de l'Évangile. C'est l'Évangile de la joie qui est déjà communiqué et annoncé. Et voilà pourquoi aussi la Vierge Marie est la première des missionnaires. Des missionnaires en deux mots, évidemment. La première qui communique et apporte le salut, parce qu'elle est la première des sauvés. Son Immaculée Conception, le privilège de son Immaculée Conception ne la détache pas du salut du Christ. Au contraire, c'est elle la première qui a bénéficié du salut apporté par Jésus-Christ. Et donc, elle nous apprend comment aimer Dieu et comment aimer le prochain. C'est le double mouvement de la charité. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. Ce sont les deux tables qui ont été communiquées par l'entremise de Moïse au peuple d'Israël, mais les dix commandements se divisent en deux grandes parties, les commandements à l'égard de Dieu et les commandements aussi à l'égard du prochain, ce que Jésus dans l'Évangile donc résume parfaitement, aimer Dieu et par-dessus tout, et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est donc la grâce qu'il nous faut demander. Si nous ne sommes pas persuadés que la Vierge Marie peut nous aider ou nous obtient la grâce d'aimer comme elle aime, eh bien notre présence est inutile ici. Alors, donc je vous propose dans un premier temps de réfléchir, de méditer à qu'est-ce qu'aimer de charité, en fait. Et ensuite de voir comment la Vierge Marie, justement, est notre mère et notre éducatrice. Et parce que, justement, la Vierge Marie a été vraiment l'éducatrice du Père Lamy, je dirais, à partir d'un matériau qui était peut-être un peu brut de décoffrage, hein, qui n'était pas, peut-être pas très élaboré, mais justement, la Vierge Marie a su parfaitement s'adapter à la personnalité parfois un peu rugueuse du Père Lamy, un peu grossière, mais dans le sens où on va parler d'une table grossière, hein, et elle en a fait ce miracle de grâce que nous admirons tous, et en tout cas dont nous sommes le bénéficiaire. Mais c'est ça qui est aussi toujours très impressionnant chez le Père Lamy, c'est qu'il renvoie toujours à la Vierge Marie. Hein, c'est elle qui a tout fait dans sa vie, et lui, eh bien, très conscient de sa pauvreté, n'a jamais, voilà, quand il se traitait d'un arlequin de la dernière catégorie, eh bien, c'est bien ça qu'il voulait dire. Eh bien, on peut dire que vraiment le Père Lamy est l'illustration du propos de saint Paul, hein, la puissance de Dieu qui éclate dans notre faiblesse. Voilà. Et donc voilà, donc ce sera le troisième point aussi, ben comment nous mettre à l'école de la Vierge Marie, je dirais à la suite du Père Lamy. Hein, comment être apôtre et disciple de la Vierge Marie, comme l'a été le Père Lamy, hein, quel que soit notre profil spirituel, quel que soit voilà, ce que nous sommes tous appelés justement à être serviteurs de Jésus et de Marie. Ça a été la raison d'être de la naissance de la famille des Oblats, de notre famille spirituelle. Ça a été que voilà, plusieurs personnes qui étaient proches de nous par la vie, par le ministère, hein, nous ont toujours dit, ben oui, mais nous aussi, on est et on veut être serviteurs de Jésus et de Marie. Eh bien, comment nous formons une seule famille spirituelle. Alors, premier point, ben, qu'est-ce qu'aimer et aimer de charité? Alors, je dirais que ben, tout à la fois, l'amour nous est donné, nous est communiqué, et c'est la première activité. Hein, dès que notre intelligence et surtout notre volonté s'est éveillée, eh bien, c'est pour aimer. Je dirais même que c'est le désir et l'amour qui nous a mis en branle, qui nous a mis en marche. Hein, c'est la recherche du bonheur, c'est ce qu'il y a de plus fondamental en nous, c'est ce qui fait que ben, on se lève le matin, même si le ciel peut être un peu gris, même si on envisage que la journée soit pas en tout point merveilleuse, mais on se lève quand même. Pourquoi? Eh bien parce que on a cette espérance, hein, que ben, l'amour nous sera donné, que nous sommes aimés, hein, et donc nous désirons naturellement. Et du coup, c'est aussi pour nous une grande source d'angoisse et d'inquiétude, hein. L'inquiétude de ne pas être aimé. Vous connaissez tous c'est sans doute la chanson de Jacques Brel, hein, la quête. Hein, il joue ce personnage de Don Quichotte, hein, c'est son dernière comédie musicale à laquelle il est participé. Hein, il y a dans cette chanson de la quête, hein, aimer même trop, même mal. Hein, il vaut mieux aimer trop ou aimer mal. Enfin, de toute façon, on n'aime jamais trop, mais il vaut mieux aimer mal que pas aimer du tout. Voilà. Et donc, nous ressentons cette nécessité, cette exigence. Alors, nous sommes faits pour aimer, pourtant nous découvrons que nous sommes incapables d'aimer vraiment. Hein, c'est que nous sommes limités dans nos capacités. Quand on voit aussi, quand les gens se... C'est quand on confesse les enfants confessent rarement des choses horribles. Hein. Je confessais en Argentine, justement, puis il y a un enfant qui me dit qu'il avait essayé de couper la queue du chat. Je suis accroché à la table pour pas rigoler, mais je dis, c'est très mal, faut pas le faire. mais souvent les enfants disent des choses, voilà, je me dispute avec, voilà, je me bagarre avec mon frère. Je dis, toujours, attends, ton frère, il est plus petit ou il est plus grand? Parce que s'il est plus grand, ça prouve quand même un certain courage. S'il est plus petit, c'est très lâche, c'est très vilain. Bon. Et très souvent, je demande, mais ton frère, tu l'aimes? Genre, ils répondent oui. Alors pourquoi tu te disputes avec lui? Un grand silence. Ben, je vais te répondre, parce qu'aimer, c'est très difficile. Même aimer ceux que nous aimons, c'est très difficile. Alors, encore plus ceux qui nous sont indifférents ou que nous n'aimons pas. Autrement dit, cela nous est donné, et donc nous devons apprendre à aimer. C'est justement d'ailleurs la mission du Saint-Esprit. On invoque le Saint-Esprit chaque fois que nous commençons un travail, chaque fois qu'on célèbre aussi un sacrement, avant de commencer un enseignement, parce que justement, ce que nous avons d'abord à apprendre, c'est à aimer. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour réciproque du Père et du Fils, mais cet amour, justement, il nous est communiqué. Et puis aussi, ben, il y a le risque, nous sommes tellement habitués à dire que Dieu est amour, très vite, c'est Dieu est amour, ça veut dire Dieu, il est bien gentil. Ben, non, c'est pas tout à fait ça. Hein. Alors, j'ai fait une petite enquête à travers le catéchisme de l'Église catholique. Je vous propose juste quelques petites références. Parce que notre intelligence, elle a besoin d'être éclairée sur ce qu'est l'amour. Hein. Voilà, trois références simplement, mais le numéro 214 qui, par exemple, nous dit, voilà, Dieu est, il est vérité et il est amour. Et nous découvrons justement qu'il nous aime à travers sa bienveillance. Hein. Il exerce à notre profit sa bienveillance. Il nous veut du bien, il nous communique du bien. Et c'est donc à travers ce qu'il fait pour nous que nous découvrons qui il est. Et ça, c'est le dynamisme de toute la révélation biblique. Dieu, en son mystère, nous ne pouvons pas le connaître, mais nous découvrons qui il est à travers ce qu'il fait pour nous. La fameuse phrase de la révélation du nom de Dieu dans la Bible, en Exode 3,14, alors là, ça a fait couler des hectolitres d'encre de la part des exégètes, cette parole, je suis, alors on traduit, je suis qui je suis, je suis celui qui est, je serai qui je serai, enfin, toutes les traductions sont possibles, mais en tout cas, une des interprétations possibles, c'est de dire, ce que je suis en moi-même, tu ne peux pas le savoir, parce que je suis Dieu et tu es homme, mais ce que je suis, tu vas le découvrir à travers ce que je vais faire pour toi. Et du coup, tu vas découvrir ta propre dignité. Et c'est tout le dynamisme du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël découvre qui il est à travers ce que Dieu fait pour lui. Et c'est comme ça qu'il devient d'un ramassis d'esclaves persécutés en Égypte et promis à une extermination programmée, quand on voit ce que Pharaon s'apprête à faire. Eh bien, Pharaon dit, voilà, la preuve, en fait, ça c'est une querelle de propriétaire. Pharaon dit la preuve que c'est moi le propriétaire de ce peuple, c'est que je peux en faire ce que je veux, ce qui est vraiment la logique totalitaire. Et Dieu dit moi la preuve que ce peuple m'appartient, c'est que je lui donne la vie, c'est que je le sauve. Vous voyez, le point de vue est quand même un petit peu différent. Voilà. Et bien du coup, évidemment, Israël va découvrir qui il est et va recevoir de Dieu la loi, l'alliance. Qui fait que voilà, il est choisi par Dieu comme compagnon, comme protagoniste de l'alliance. Voilà, c'est à travers ce que Dieu fait pour moi que je découvre qui je suis. Et cela est vrai pour Israël, mais c'est vrai aussi pour l'Église et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et puis nous découvrons aussi que non seulement Dieu nous veut du bien, mais qu'il réalise ce bien justement, qu'il est fiable, qu'on peut s'appuyer sur lui. Ça c'est aussi dans les psaumes, le Seigneur est mon rocher, c'est commode un rocher, parce qu'on peut construire dessus, et puis quand on est attaqué dans le désert, voilà, si on peut s'adosser à un rocher, on est sûr de ne pas être attaqué par derrière. Donc c'est vraiment le Seigneur est une protection. La racine du mot « Amen », quand on dit « Amen », ça ne veut pas dire « ainsi soit-il », ça veut dire « c'est vrai, je peux m'appuyer là-dessus, j'engage ma foi ». Voilà. Ce sont toujours des expressions très confiantes, très, très concrètes. Je peux me confier, je peux être fier de lui, je peux lui faire confiance, il est notre soutien et notre rocher. Il est, comme le dit aussi le catéchisme, « fiabilité, constance, vérité et fidélité ». J'allais dire tout ce que nous ne sommes pas. Alors, un autre endroit du catéchisme, au numéro 221, il est lui-même éternellement échange d'amour. Évidemment, la référence, c'est la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, les versets 8 à 16. Oui, c'est très intéressant de voir que cette communauté qui est de fondation toute récente ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la première chose qu'ils ont fait, ça a été de permettre aux autres d'avoir la Bible, dans une belle édition, et puis le catéchisme. Si je puis dire, ça c'est des vraies bonnes sœurs, ça. Voilà. Bien sûr, l'accueil est merveilleux et on en bénéficie. Mais voilà, ce dont les gens ont besoin, c'est, vous irez voir donc dans cette belle Bible, la Bible de la liturgie, eh bien, vous verrez, la grande révélation que Saint Jean fait. Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il est échange d'amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et surtout, Dieu nous rend capables de participer à cette vie, à cet échange d'amour. Nous avons reçu en nous, au jour de notre baptême, le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est l'amour réciproque du Père et du Fils. Donc, nous participons, autant qu'il est possible à une créature, nous participons à cet échange d'amour. Même si, comme cela nous a été dit aussi hier, nous vivons dans la foi. Donc, nous aurons toujours à le vivre dans une certaine obscurité. Si nous le croyons, c'est que ce n'est pas évident. Mais cela nous a été communiqué. Quand on est malade, on prend un traitement, on est sûr que le traitement va réussir, parce qu'on fait confiance au médecin, et pourtant, il y a des traitements à effet différé. On sait très bien qu'on ne va pas être mieux tout de suite. C'est de ce genre-là. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter que ce ne soit pas à effet immédiat. C'est souvent plus notre sensibilité. Alors, je ne dis pas non plus qu'il n'y ait pas des grâces sensibles qui soient communiquées et données. Et si le bon Dieu nous en donne, on prend. Mais voilà, on n'aime pas Dieu à cause de ça. Un jour, il y avait une brave dame qui disait au curé d'Ars, « Vous savez, monsieur le curé, j'ai fait oraison ce matin, là, dans l'église, et vraiment, je sentais que la Vierge Marie était là, que le Saint-Esprit était là. » Et le curé d'Ars, qui s'y connaissait un petit peu en oraison aride et difficile, lui a dit, « Mais madame, c'est juste que vous avez fait une bonne digestion, et c'est tout. » Voilà. Donc, de bien se dire que nous ne sommes pas c'est pas nous qui mesurons la qualité de notre prière. Et donc, nous participons, en tout cas, à cet échange d'amour. Et puis, le point 231... toujours dans le catéchisme, une toute petite phrase, mais qui est très profonde, « Son être même est vérité et amour. » Donc ne jamais, d'après le prophète Isaïe, ne jamais amour et vérité se rencontrent, ne jamais séparer l'amour de la vérité. Saint François de Sales dirait, c'est qu'il y a bien, l'amour de la vérité, la vérité de l'amour, mais ne jamais séparer les deux. Même s'il ne faut pas limiter la vérité à notre compréhension. Parce que si, comme notre compréhension est limitée, alors notre amour sera limité. Mais de toujours penser que, justement, autant notre intelligence est limitée, autant notre capacité d'aimer, elle n'est pas limitée. C'est pour ça que même lorsque notre capacité de comprendre est limitée, parce que c'est comme ça, ou parce que avec le temps, le vieillissement, tout ça, nos neurones sont un peu moins efficaces, eh bien, c'est pas pour ça que notre capacité d'aimer va diminuer. Parce que là, c'est d'un autre ordre, justement. Mais comme je vais y revenir dans un instant. Donc, toute l'histoire du salut manifeste cet amour, cette bienveillance et ce désir de Dieu de nous faire partager sa propre vie. À travers tout. Et on pourrait détailler toutes les étapes de l'histoire du salut, depuis l'appel d'Abraham jusqu'aux différentes catastrophes qui ont pu arriver au peuple d'Israël, la déportation, la fin du régime du royaume du Nord et du Sud, le retour en terre promise, toutes ces étapes-là, eh bien, sont toujours à comprendre comme une préparation à la grande révélation qui se fera en Jésus-Christ. Et je dirais que le don est la mesure de l'amour. Dieu se donne, il se communique, et c'est pour ça justement qu'il... Comment nous savons qu'il nous aime? Parce qu'il donne son Fils et il livre le Saint-Esprit. Et justement, en Jésus, nous avons le modèle parfait de l'amour. D'ailleurs, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et cet amour s'exerce à l'égard d'une réalité qui est abîmée. Quand nous parlons de l'amour de miséricorde, voilà, Dieu n'aime pas de la même façon ses anges, par exemple, que nous. Parce que là, il aime une réalité qui est quand même bien abîmé, bien saccagé par le péché. Et donc justement, la preuve de son amour, c'est qu'il nous donne les moyens de nous relever par sa grâce, de nous guérir, de nous soigner. Mais dans l'amour qu'il nous porte, il y a toujours cette dimension de guérison. D'ailleurs, dans tout sacrement, pas simplement dans le sacrement de pénitence ou le sacrement donc sur des malades, mais dans tous les sacrements, il y a toujours une dimension de guérison. Et il me semble par exemple que dans le sacrement du mariage, il y a aussi cette dimension de guérison, parce que il y a toujours la tentation de cesser de gagner par l'égoïsme, par la recherche de soi. Et bien le sacrement du mariage nous ouvre à une nouvelle générosité, au don désintéressé de nous-mêmes, pour reprendre l'expression du concile souvent commentée par Jean-Paul II. Et bien on pourrait prendre tous les sacrements. Dans tous les sacrements, il y a toujours un aspect une aide dans le combat spirituel que nous avons tous à mener. Et donc Dieu met tout en œuvre pour nous sauver, donc un amour de miséricorde infini Et je dirais, c'est aussi un amour efficace qui agit. Hein, c'est pas un amour de compassion, en disant, vous savez, on va présenter notre compassion ou nos, comment on dit, nos condoléances. Hein. Alors bon, parfois, c'est pas simplement des mots. On est triste pour les gens, mais bon, et le soutien de notre amitié, les réconforts et les aides. Mais enfin, ça va pas. Hein, puis c'est toujours, vraiment, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Bon, très bien. Mais l'amour de Dieu est d'un autre ordre. C'est qu'il n'est pas là à regarder en disant oh là là, oh mes pauvres enfants, vous êtes mis dans quelle situation vous vous êtes mis. Hein, c'est que, bon, ben, c'est un amour qui est actif, hein, c'est un amour qui nous relève. Hein, bon, ben d'accord, tu es dans cette situation-là, mais moi je t'offre les moyens de t'en sortir. Pas simplement par l'enseignement, mais aussi par la grâce. Hein, Dieu ne nous dit pas simplement ben, voilà le chemin à prendre, il se fait le compagnon de notre route. Il nous prend la main et il fait que nous nous relevions. Maintenant, si on ne veut pas se relever, si on se dit qu'on est beaucoup mieux par terre, là, il ne peut pas nous faire avancer avec un coup de pied dans le derrière. C'est pas sa manière. Voilà. Et donc, Jésus montre qu'il sait, qu'il a tout fait pour accomplir sa volonté. Alors, évidemment, lorsque nous contemplons le Christ, assez spontanément, nous voyons d'abord l'amour qu'il nous porte, ce qui est bien normal. Mais il faut d'abord voir l'amour qu'il porte à son Père. C'est pour ça que Jésus est le modèle des religieux, parce qu'il est tout entier tourné vers le Père. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Il ne cherche qu'à accomplir la gloire du Père. La gloire du Père, c'est notre salut, ça tombe bien. Mais voilà, il veut rendre la créature. Au moment du péché originel, il y a eu comme un détournement. La créature qui appartient de droit à Dieu lui a comme été subtilisé par le démon. Et Jésus, dans son humanité, vient rétablir l'ordre, si je puis dire. Mais il ne le fait pas comme peut le faire un escadron de gendarmerie mobile. Il rétablit l'ordre dans le sens où il remet toutes les choses dans l'ordre voulu par Dieu. Voilà. Il y a enfin un cœur humain, qui est le cœur de Jésus, qui a parfaitement aimé le Père. Et en faisant ainsi, ben, voilà, les choses sont remises dans leur vraie perspective. Hein, c'est la parole qu'il dit quand Saint Jean-Baptiste est choqué que Jésus vienne se présenter pour recevoir un baptême pénitentiel, qui est un baptême où on se faisait baptiser pour, on faisait en quelque sorte une reconnaissance publique de son péché, quoi, un acte public disant voilà, j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être purifié. Et Jésus se soumet à ça. Et Saint Jean, qui par révélation sait qui est son cousin, dit ben, « Non, c'est pas possible, c'est moi qui devrais me faire baptiser par toi. » Jésus dit « Il faut que toute justice soit accomplie. » On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est sans doute cela. C'est-à-dire que symboliquement, on déposait en quelque sorte tous ses péchés au fond du Jourdain. Et Jésus, lui, en étant immergé dans le Jourdain, prend sur lui tous ses péchés. Et donc, les prenant, il les enlève. Voilà, c'est ça. Il nous assume dans notre condition pécheresse. Et c'est pour ça que Saint Jean le désigne comme l'agneau du sacrifice qui porte et enlève le péché du monde. Voilà. Donc, Jésus est le véritable adorateur du Père. Quand il dit à Nicodème, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, il est le premier adorateur en esprit et en vérité. Parce qu'il n'y a aucun péché qui l'empêche d'avoir une prière juste. Il y a enfin un cœur d'homme qui prie justement, dans le sens le Père. Et évidemment, ce service de la justice véritable, du rétablissement de la justice, se fera sur le Golgotha. Hein, puisqu'à ce moment-là, dans cette situation épouvantable d'angoisse, de conséquences du péché, il continue à aimer le Père. Hein, le pape Benoît XVI avait une très belle expression en disant il se passe à ce moment-là quelque chose de comparable à la fission atomique. Hein, c'est-à-dire, on y va au cœur de la matière et on fait exploser les choses en quelque sorte de l'intérieur. C'est que ce qui aurait dû normalement produire un cri de révolte n'est qu'un chant d'amour pour le Père. Et à ce moment-là, ben, démon, il perd tout pouvoir. Quoi. Voilà. Enfin, bon, on essaie d'exprimer de manière humaine hein, le grand mystère de la rédemption. Mais en tout cas, le mystère de la rédemption, c'est la pleine manifestation de la victoire sur la haine et sur la mort. Et d'ailleurs, voilà pourquoi Jésus embrasse totalement la volonté de salut de Dieu. Il n'est que sauveur. Dans sa vie, il n'y a rien de sécularisé chez Jésus. Il est tout autant sauveur et à 100% dès le premier instant de sa conception. durant les 30 années de la vie cachée, il se dit pas, bon, ben voilà, là, je prends un peu de bon temps, je m'amuse, et puis après, voilà, à l'âge de 30 ans, il faudra partir à la conquête du monde, et donc les choses sérieuses commenceront. Hein, il est parfaitement sauveur à toutes les étapes de sa vie humaine, et quelle que soit la situation. Mais évidemment, ce salut est plus ou moins manifesté, hein, et il est pleinement manifesté pour nous lorsqu'il donne sa vie, il offre sa vie en sacrifice sur la croix. Alors, ce n'est pas qu'un exemple qu'il nous laisse, hein, mais il nous communique le moyen de, il nous communique la grâce. Hein, c'est ce que nous appelons justement le don du Saint-Esprit. Autrement dit, il y a une manière d'être du Christ dans son humanité qu'il nous donne, qu'il nous communique. Vous allez dire, bah oui, mais recevoir le Saint-Esprit, c'est pas possible parce que nous sommes des créatures et lui est le Créateur. Ben oui, mais il y a quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit en plénitude, c'est l'humanité de Jésus. Jésus est parfaitement homme, est pleinement homme. Donc la preuve que ça marche, c'est que ça a marché en Jésus. Et comme il est notre frère, eh bien il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en nous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc il nous fait participer à sa propre manière d'aimer. Alors, Saint Thomas d'Aquin dit que l'amour de charité qui est amour du bien divin est un amour spécial. Ça, c'est très important, c'est une petite phrase qui paraît comme ça, toute simple, mais comme souvent chez lui, ça révèle un très profond enseignement. C'est que nous pouvons sentir que nous avons une capacité limitée d'aimer. Il y en a qui sont plus ou moins doués pour aimer. Mais là, nous sommes dans le cadre de l'amour naturel. L'amour surnaturel de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, est d'un autre genre. Alors évidemment, pour se manifester, il a en boutique notre humanité. Donc c'est vrai qu'il y a des personnalités qui, parce qu'elles semblent plus douées pour aimer naturellement, semblent donner un témoignage plus visible, plus patent de la charité divine lorsqu'elles se donnent totalement à l'amour de Dieu. Avec le risque de mal aimer, justement. Et puis, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas la manifestation aux yeux des hommes, c'est aux yeux de Dieu. En revanche, il y a des gens, ben voilà, ils ont reçu parce qu'ils ont reçu, comme nous tous, une nature blessée par le péché, mais cette blessure s'est manifestée par le fait d'avoir naturellement une capacité assez limitée d'aimer. Et ben, on a l'impression que, vraiment, aux yeux des hommes, ils aiment pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on en sait? C'est pour ça qu'il faut toujours réserver le jugement à Dieu, d'ailleurs. Parce qu'on sait absolument pas que, peut-être que eux, avec le peu de moyens qu'ils ont en magasin, eh bien, en fait, il manifeste un beaucoup plus grand amour de Dieu. Parce qu'il cherche quand même à être fidèle à ça. Vous voyez ce que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être limité en disant, ah ben non, mais moi, je vais être désagréable avec tout le monde comme ça. Mon amour, je ne le laisse qu'à Dieu. C'est pas du tout ça. Hein. Mais on est très surpris. Voilà, que cela, ça reste le secret de Dieu. C'est chacun qui doit avoir ça en conscience devant Dieu. Bon, c'est pas tout à fait touchant cette question-là, mais ça en est très proche. Vous connaissez tous Sainte Thérèse de Lisieux. Un jour, elle était déjà très 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 malade. Elle se traîne à la cuisine pour prendre un médicament, et elle entend deux de ses propres sœurs, hein, sa sœur carmélite. Et Carmel, c'est pas très grand, on est un peu les uns. Donc normalement, on devrait bien se connaître. Bon. Et vous savez, quand il y a une carmélite qui mourait, on faisait toujours ce qu'on appelle le nécrologe. On fait un petit mot, on dit, ben voilà, priez pour la sœur une telle qui est décédée, voilà, donc, et puis on essaie de dire en quelques mots un peu sa physionomie spirituelle. Alors, en général, quand on disait, elle avait un caractère très affirmé, c'est-à-dire qu'elle avait très mauvais caractère, bon, elle avait tout dans ce langage ecclésiastique. Et donc, on envoyait ça à tous les couvents pour dire, ben, priez pour la sœur, voilà. Et donc, et Thérèse de Lisieux entend deux sœurs discuter entre elles, de sa propre communauté, et l'une dit à l'autre, petite sœur Thérèse, passera pas l'hiver. Et de fait, elle est morte au mois d'octobre. Bon. Et l'autre dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire dans son nécrologe ? Voilà, la plus grande sainte du XXe siècle, disait Saint Pie X. Voilà, donc vous voyez, dans sa propre communauté. Voilà, c'est pour dire que c'est le secret de Dieu et que ben voilà, la charité se déploie, mais elle n'est pas toujours visible. Il y a aussi un très beau texte de Saint François de Sales, j'ai dû déjà vous donner, ou à quelques-uns d'entre vous, dans le début du traité de l'amour de Dieu, où il dit, ben, je traite dans ce traité de l'amour qui est déversé en nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il dit très bien, il y a des gens qui ont une grande capacité d'aimer, avec le risque justement c'est de mal aimer, ce qui était sa nature à lui. Hein. Saint François de Sales avait une capacité naturelle d'aimer, mais il l'a complètement purifié, et donc ça a donné le Saint François de Sales que nous connaissons. Et puis il y en a d'autres qui au contraire, naturellement, sont plutôt revêches. Et bien au moins ceux-là, c'est plus dur, l'amour a plus de mal à les vaincre, mais au moins quand ils aiment, ils aiment. Alors, cet amour pourra paraître moins aimable aux yeux des autres, mais pour Dieu, il est d'une grande valeur. Voilà. Ce qu'il faut, c'est d'aimer selon son cœur, enfin selon mais de ne pas mettre de limite à cette capacité, parce que cette capacité d'aimer nous vient de Dieu. Il ne s'agit pas de monter les blancs en neige en disant bon ben voilà, j'aime déjà naturellement, puis je vais essayer de, hein, et puis parce que c'est comme ça, mais d'accueillir cet amour de Dieu qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Voilà. L'amour de charité, qui est amour, je répète, qui est amour du bien divin, est un amour spécial. Et pourquoi l'amour est encore supérieur à la connaissance, hein, alors c'est vrai qu'on aime d'autant plus qu'on connaît, mais justement notre connaissance est limitée. Et Dieu, en tant qu'il est vérité, se communique par la foi, nous dit saint Thomas, mais en tant qu'il est amour, il se communique par la charité. Et voilà pourquoi la charité est plus grande encore que la foi, même si en fait la charité est conséquence de la foi. Ça ne fait que tirer des conclusions de ce que saint Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, le fameux hymne à la charité que nous connaissons tous. Alors je passe quand même un petit peu à la Vierge Marie maintenant. Alors certes, Jésus est notre maître, notre modèle, et c'est à lui que nous sommes consacrés, et par lui au Père, dans l'Esprit Saint. Et le modèle de la Vierge Marie, justement, comme modèle de charité, l'avantage, si je puis dire, de la Vierge Marie, c'est qu'elle est purement humaine. Certes, Jésus est vraiment homme, mais il est Dieu. Hein, il est vraiment vrai Dieu et vrai homme. La Vierge Marie, c'est une pure créature. Et donc voilà ce que l'amour de Dieu est capable de réaliser dans une humanité. Elle est le chef-d'œuvre de la création, elle est consacrée et elle se consacre totalement à Dieu sans que nul péché ne la retienne. C'est la raison de son immaculée conception, ce n'est pas une sorte de privilège qui l'isolerait, mais c'est qu'il fallait que nous puissions voir au moins en une personne humaine le triomphe de la grâce. Et c'est la raison, enfin c'est un des arguments qui dans la réflexion de l'Église a joué pour définir son immaculée conception. Il y a en quelqu'un la plénitude de la rédemption a atteint vraiment sa plénitude. Voilà pourquoi aussi, comme le dit le Concile Vatican II, elle est la première des sauvés, mais à un titre tout à fait exceptionnel puisque elle a été sauvée jusque dans sa conception immaculée. C'est qu'elle a échappé à cette souillure du péché originel que tous nous recevons, cet état de faiblesse que tous de nature blessée que nous recevons tous parce que nous recevons tous une nature humaine. Et c'est aussi une personne très concrète, elle est fille de son peuple, et je dirais qu'elle a mis au service de sa mission toute sa personnalité. Mais elle ne garde rien pour elle, elle est entièrement pour Dieu, entièrement pour les autres. Et en ce sens, vous voyez, elle est la parfaite disciple de son Fils. Jésus nous apparaît comme tout tourné vers le Père, pour le salut des hommes. Eh bien, la Vierge Marie, autant qu'il est possible à une créature, sans que nul péché ne la retienne, est toute tournée aussi vers Dieu. Ce qu'elle exprime en un mot très simple et très concret, je suis la servante du Seigneur. Et ce qu'elle redira dans son Magnificat. Elle n'est que ce service. Et voilà pourquoi nous sommes très heureux nous sommes les serviteurs de la servante, en quelque sorte, mais, pas en quelque sorte, tout à fait. Hein, c'est ce qui exprime très bien donc ce beau titre de serviteur. Le serviteur n'existe que pour le service qu'il a réalisé. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est pour ça qu'on est des serviteurs inutiles. Parce que déjà, notre joie, c'est de participer à ce service. Et qu'on est bien heureux d'être dans la maison de Dieu. Et elle ne reviendra donc jamais sur sa parole. Son fiat, alors il y a le très beau texte de saint Bernard, vous connaissez sans doute, où toute l'humanité perdue par le péché est suspendue aux lèvres de la Vierge Marie. Mais il faut aussi comprendre, ça c'est ce que dit saint Thomas, c'est qu'elle répond oui, son fiat, elle le prononce en notre nom aussi. Donc chaque fois que nous acquiesçons à la volonté de Dieu, eh bien nous participons à ce grand mouvement commencé par la Vierge Marie au matin de l'Annonciation. Et à la visitation, alors vous imaginez un petit peu la scène, enfin la Vierge Marie, on lui dit tu seras la mère du Très-Haut, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, et celui qui viendra en toi sera saint, hein, il sera appelé fils de Dieu. Et voilà, c'est C'est bouleversant quand même. Elle participe pleinement, parce qu'elle demande, mais comment cela se fera-t-il? Enfin, elle participe totalement, elle veut acquiescer, mais d'une manière la plus éveillée possible. Hein. Et puis après, elle aurait très bien pu se précipiter chez ses copines qui prenaient le thé, hein, pour dire, vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Elle part en hâte, nous dit le texte, en hâte. Elle part se mettre au service de sa cousine. Et justement, à la visitation, elle apporte le salut. C'est ça qu'elle est à la fois le modèle des consacrés et le modèle des missionnaires. Ce qu'elle a reçu, elle ne le garde pas pour elle. Jésus, elle nous le communique. Et c'est un principe général dans l'Église, c'est qu'une grâce est toujours une mission. Nous avons reçu la grâce du baptême, qu'est-ce que nous en faisons ? Nous avons reçu la grâce de la sanctification, qu'est-ce que nous en faisons? Et d'ailleurs, il faut l'exclamation d'Élisabeth, hein, bienheureuse celle qui a cru, la béatitude de la foi, pour qu'éclate son Magnificat. Après tout, elle aurait pu dire son Magnificat dès le matin de l'Annonciation, enfin, tout de suite après son fiat, qu'il me soit fait selon votre parole. Et non, il faut en quelque sorte que, comme elle ne se regarde jamais elle-même, elle dit, mais c'est vrai, après tout, c'est quand même extraordinaire ce qui m'arrive. Et l'humilité de la Vierge Marie, ça ne consiste pas à dire, mais je suis moins que rien. Certes, il a regardé l'humilité de la Vierge Marie. Mais son humilité consiste à dire, toutes les générations me diront bienheureuse. Tiens, toutes les générations parleront de moi. Hein? Mais pas dans le sens, évidemment, oui, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est pas du tout ça. Il n'y a qu'une seule chose qui est intéressante en moi, c'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu. Voilà, c'est ça le témoignage. Le témoignage, c'est pas raconter sa vie en disant « Ah, il m'est arrivé des trucs extraordinaires. Hein? » C'est-à-dire, voilà ce que le Seigneur a réalisé dans ma vie, mais pour le salut des autres. Hein? Parce que, évidemment, la Vierge Marie est la première des sauvés, mais l'événement de l'incarnation, ça nous concerne aussi, et comment? Et donc, c'est une grande action de grâce pour la miséricorde de Dieu. Mais de reconnaître en vérité cette œuvre de Dieu. Hein? C'est tous les mystiques, à commencer par Sainte Thérèse d'Avila, montrent bien que l'humilité, c'est la vérité. Hein? Alors on disait, mais aujourd'hui on n'ose plus faire des plaisanteries sur les jésuites, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, on disait que les jésuites disaient « Restons bien humbles, mais l'humilité, c'est la vérité. » Or, la vérité nous oblige à dire que nous sommes les meilleurs. Donc humblement, reconnaissons que nous sommes les meilleurs. Non, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. C'est de reconnaître, encore une fois, les merveilles de la miséricorde de Dieu en nous. Et à Cana, donc elle anticipe l'heure de Jésus, justement l'heure où il manifeste sa gloire, c'est-à-dire son amour rédempteur. Et donc, et elle anticipe, par sa supplication, par son attention aussi aux nécessités très, très concrètes de ce jeune couple qui risquait de connaître une situation d'humiliation. Elle vient au secours de cela, mais comme souvent dans l'évangile selon Saint Jean, c'est l'occasion d'un... Comment dire ? Autant c'est une réalité très très concrète, mais cette réalité très concrète va manifester au fond une révélation. C'est pour ça que ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est pas simplement parce qu'il a fait quelque chose d'un peu extraordinaire ou de tout à fait extraordinaire, mais c'est parce que il a révélé quelque chose de son mystère. Et qu'est-ce que Jésus manifeste ? Ben, qu'il est l'époux de l'Église à ce moment-là. Il faut se rappeler en effet que dans la tradition juive, un mariage, c'est pas les beaux-parents qui offrent le vin, c'est l'époux lui-même. Et donc, si Jésus offre le vin, ça veut dire qu'il se désigne lui-même comme l'époux de l'humanité. Hein, nouvelle rachetée. Alors, tout ça, c'est en filigrane. Mais en tout cas, et si Jésus emploie l'expression de femme, hein, qui est une expression unique, jamais un fils ne s'adresse à son... Dans la Bible, il n'y a aucun endroit où Jésus s'adresse souvent en disant femme, hein, beaucoup de femmes. Hein, mais pour un fils, parler à sa mère en disant femme, ça, c'est unique dans toute la Bible. Ça veut donc dire qu'elle est la femme. Et évidemment, cette expression, comme nous a dit Père Hubert Marie hier, nous la retrouverons dans l'évangile selon Saint Jean au moment de la croix, hein, où Jésus nous donne... Et c'est justement au moment où elle est au sommet de sa souffrance qu'elle est au sommet de sa charité, hein, puisqu'elle coopère complètement à la rédemption. Donc elle pose le plus grand acte d'amour qui soit. Hein. Dans son humanité, elle est parfaitement identifiée à son Fils. C'est pour ça d'ailleurs que Saint Jean Eudes contemplait le cœur de Jésus et de Marie. Parce que le cœur de Jésus et de Marie, justement, à ce moment, ils ne font qu'un. Alors après, qui est tous les Saint-Marie Montfort, tout, ce sont aussi des bons théologiens, ils posent toutes les distinctions qu'il faut, mais dans leur humanité, Jésus et Marie, c'est une seule personne. L'union et la vie chrétienne, ce n'est rien d'autre que d'être uni à Jésus. Et voilà pourquoi Marie est notre modèle. Et donc, elle participe au sacrifice de son fils autant que cela est possible à une créature. On peut dire qu'elle est co-rédemptrice, mais comme nous tous, nous sommes co-rédempteurs, c'est-à-dire nous participons au salut du Christ, nous participons au salut pour nous et pour les autres à la mesure de notre adhésion à Jésus-Christ. La puissance de Dieu éclate encore plus lorsqu'il fait participer des créatures à l'œuvre du salut. Bien sûr, c'est lui la source principale. Ce n'est pas la Vierge Marie, elle ne tire rien de son fond. Mais parce qu'elle est parfaitement unie à son fils, alors elle participe parfaitement à son propre salut et au salut des frères de son fils. Mais de même que nous, à la mesure de notre amour, eh bien nous participons pleinement au salut. Être catholique, c'est non seulement être sauvé, mais c'est devenir sauveur dans le sauveur. Nous le faisons, les parents le font déjà en communiquant la foi qui sauve à leurs enfants, et puis nous le faisons par le témoignage. Voilà. Mais encore une fois, c'est à la mesure, la fécondité de notre mission est à la mesure de notre attachement et de notre union au Seigneur Jésus. Troisième point enfin, aimer en 5 minutes, et ce sera ma conclusion, donc aimer comme serviteur de Jésus et de Marie. Alors évidemment, donc, je ne reprends pas, mais... Donc la Vierge Marie a été présence maternelle et éducatrice et aussi missionnaire dans toute la vie du Père Lamy. Et je dirais qu'elle a justement révélé sa présence. Alors bon, même si on ne sait pas trop à propos de sa vocation sacerdotale et religieuse, mais en tout cas, c'est vrai que spécialement dans les moments de découragement, enfin on nous a parlé aussi de Saint-Joseph, mais elle est là présente. Elle se présente à lui comme étant toujours sur la brèche, c'est-à-dire comme celle qui combat, qui est dans les litanies, elle est saluée comme le rempart des chrétiens. Et on pourrait aussi montrer que, et cela peut faire l'objet de votre méditation, vous connaissez suffisamment le Père Lamy pour voir à quel point sa vie, des tas d'épisodes de sa vie sont comme l'illustration des mystères du rosaire, des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du rosaire, spécialement donc dans les conséquences, les circonstances les plus dramatiques. À Troyes, dans son ministère à la Courneuve, au moment de l'échec de la fondation de la congrégation, voilà. Alors qu'est-ce que Marie lui a appris dans ces moments? Qu'on n'avait rien à craindre tant qu'on aimait Dieu et qu'on travaillait au bien du prochain. Tout le reste, ça appartient justement, c'est l'œuvre de Dieu, et c'est ce qu'il dit dans ce qu'on a retrouvé dans les écrits spirituels. À l'amour de Dieu sera la trame de leur existence. Ça veut dire quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aime Dieu et où on se sait aimé par lui, eh bien notre cœur est établi dans une stabilité, dans une paix qui n'empêche pas du tout ni les souffrances, ni les contrariétés, ni les difficultés. Mais nous savons que l'essentiel n'est pas en jeu, puisque notre cœur appartient à Dieu. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose même où il se montre vraiment disciple et de Saint Bernard et surtout de Saint François de Sales, puisque Saint François de Sales, c'est le grand maître, celui qui nous apprend vraiment à vivre toujours de la présence de Dieu, à toujours adhérer à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Voilà. Il y a toujours un bien qui nous est accessible. Et donc de reconnaître en toute chose la volonté de Dieu, qu'elle soit signifiée ou de bon plaisir. Ça, je reviens pas sur ces distinctions qui sont fondamentales. Mais voilà, donc on n'a jamais raison de se révolter, on n'a jamais raison de grogner, de ronchonner. Le Père André aimait à dire que chaque fois que l'on se plaint, eh bien, on pêche contre la pauvreté. Alors évidemment, la pauvreté, chacun la vit selon ses états de vie. Mais donc, au lieu de perdre notre temps, voilà, quel chemin dans cette situation-là, et c'est aussi un regard de foi que nous sommes appelés à avoir dans notre vie, il y a toujours un chemin pour témoigner à Dieu et aux autres de son amour. Alors, d'où, c'est vrai, chez le Père Lamy, un certain volontarisme, spécialement dans sa prédication familière, spécialement à l'occasion des pèlerinages à Notre-Dame des Bois. Ça, j'en parlerai demain, mais quand il dit, voilà, il faut toujours prendre une résolution un peu forte quand on vient à Notre-Dame des Bois. Et puis dans ses allocutions, enfin les petits sermons qu'il faisait à la Courneuve tous les jours là dans la prière du chapelet. Mais ce qui est très intéressant, c'est voilà, il faut décider d'aimer. J'ai peut-être pas vraiment de grande capacité d'aimer, mais au moins je peux décider d'aimer et d'aimer de bienveillance ces autres, c'est-à-dire leur vouloir du bien. Je peux prendre de véritables résolutions. D'où aussi son insistance, alors plus dans ses écrits pour la vie religieuse, mais sur la lutte contre les défauts. Son souci aussi de mortification. Et de même, il aura lui-même à lutter, parce qu'il aura ses faiblesses, peut-être contre une certaine pusillanimité. C'est quand même étonnant, vous voyez, 1909, l'apparition, 1914, la fondation du pèlerinage, ça fait quand même un peu moins de 5 ans, si je compte bien, et puis la congrégation, c'est 1930. Hein, on peut dire qu'il a un peu de retard à l'allumage, quand même. Hein, comme disait la Vierge Marie, il prie mon fils contre moi. Bon, voilà, alors je dis pas du tout que c'est un exemple. Mais voilà, là aussi, comment la Vierge Marie a su s'adapter, comment, lui-même, je pense qu'on peut pas parler de résistance, mais voilà, parce que je crois que c'est justement ça, il a l'humilité un peu farouche, hein, et donc du coup, ben, il s'y voyait pas, quoi, il se croyait pas capable. Et puis, ben, après l'échec de la fondation, il aurait pu dire à la mère, ben oui, je vous l'avais bien dit que j'en étais pas capable. Hein, c'est comme la plus belle épitaphe qui soit pour moi, c'est je vous avais bien dit que j'étais malade, vous voyez, sur une tombe. Bon, ben, c'est ça, je vous avais bien dit qu'après un échec, je vous avais bien dit que j'en étais pas capable. Mais peut-être que mystérieusement, cela quand même a correspondu à la vie de Dieu, à la volonté de Dieu, et que ben, nous sommes aussi les fruits de l'humilité cachée et sans résultat apparent du Père Lamy. Hein, même s'il a eu une véritable fécondité des sons vivants, mais en tout cas cette ultime fécondité de voir naître une famille religieuse ne lui a pas été donnée. Hein. Voilà. Et pour nous-mêmes, eh bien, je terminerai par là, ben, nous sommes invités à suivre l'exemple de la Vierge Marie comme le Père Lamy l'a fait. Autrement dit, comme Saint Jean, il a vraiment pris la Vierge Marie chez lui. Il lui a consacré donc sa paroisse et son ministère. Et justement, si le cœur de Marie est refuge des pécheurs, c'est parce qu'elle brûle de l'amour de Dieu et qu'elle a été le tabernacle de la miséricorde divine en accueillant Jésus notre Sauveur. Et donc c'est exactement cela que nous voulons vivre comme baptisés, comme consacrés, comme membres aussi de la famille spirituelle. Et donc c'est... Pour reprendre là où j'ai commencé, eh bien c'est ainsi que nous pourrons communiquer à ceux qui nous entourent la joie de l'Évangile. C'est parce que nous serons nous-mêmes habités de cette joie. Et ben, c'est tout à fait cette grâce que nous pouvons demander. Donc, à l'occasion cette grosse journée de retraite, on va dire, cette journée et demie de retraite, et puis aussi ben, pour le pèlerinage, pour la communauté paroissiale avec qui nous allons vivre ces moments, et puis si vous le voulez bien aussi, pour toute notre famille religieuse, et pourquoi pas, vous pourriez même pousser la charité jusqu'à prier, y compris pour son supérieur général. Voilà, merci beaucoup, et nous nous retrouvons pour la messe.